temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Elle a commencé à enseigner en septembre 1962 et à partir de ce jour, elle n'a jamais douté que l'éducation serait son point d'ancrage de toutes ses actions, à tel point qu'elle est allée pousser tout cela un petit peu plus loin en devenant juge à l'émission Génie en herbe avec nous, avec grand plaisir, pour une deuxième semaine. Francine Payette, bonjour.
Bonsoir, Monsieur Dubois.
C'est vrai que l'éducation a pris beaucoup d'importance dans votre vie.
Oui, tout à fait. C'était ma façon de redonner peut-être ce que j'avais reçu, parce que j'ai été très chanceuse dans mes études, les personnes que j'ai rencontrées. Moi, j'adorais la lecture et puis ça m'avait amené à... J'avais abonné mes deux frères, de sorte que j'avais le droit de prendre 9 livres. Alors, on avait le droit de 3 par carte. Alors, à la bibliothèque des Lormiers, là, qui était située en haut du poste de pompiers au coin de Saint-Zotique, je prenais 9 livres par semaine, je lisais beaucoup. À un moment donné, je voulais avoir accès par la petite porte à la bibliothèque des adultes de l'autre côté. Ah, j'avais pas le droit, jusqu'à ce que je rencontre une femme extraordinaire.
Alvin Bellil,
qui y a un prix littéraire qui s'appelle Alvin Bellil. Ben, moi, oui, je l'ai connue la vraie, là, pas la statue, là. Et puis, elle était venue donner une conférence à l'école, puis j'avais osé lui demander, est-ce que je peux aller à votre bibliothèque ou est-ce que je peux avoir la permission d'aller à la bibliothèque des adultes? Alors, elle m'avait signé une lettre. J'avais été obligée d'aller voir l'aumônier de mon école pour avoir la permission d'avoir accès à la bibliothèque des adultes. Et là, il y avait des ex-libris avec des 1-0, 2-0, 3-0. Et puis, moi, ce qui m'intéressait, c'était la Révolution française. Mais parce que c'était anti-clérical, il y avait 3-0. Oui, il fallait que je les lise là. Oh, c'était frustrant, ça.
Oui. Ouais. Mais est-ce que vous avez déjà pensé un jour à écrire? Parce que je dois vous dire, vous qui êtes à l'écoute, que Mme Payette nous a adressé beaucoup de notes sur son parcours. Et c'est fascinant de lire cela, parce qu'en lisant ces notes, on voit une bonne part de ce qu'était le Québec des années 50 et 60. Vous le racontez en imageant beaucoup à travers ce que vous proposiez aussi comme pièce musicale. Je pense que ça pourrait être fort intéressant que vous racontiez tout cela un jour sur papier.
Bon, j'ai essayé, j'ai fait un petit essai dans ce sens-là. Un jour, un éditeur m'a demandé d'écrire un livre qui se lirait en 3 heures sur ce que je disais aux parents de mes élèves de 5e secondaire en début d'année. Alors, j'ai ramassé ça, j'ai fait un petit livre qui s'appelle « L'adolescence, une étape dans la vie des parents ». Ça a été fort agréable à faire, puis ça m'a amené à faire...
Que leur disiez-vous?
Ben, au début de l'année, oui, je leur disais que leurs enfants vont leur dire qu'il y a juste toi qui fais ça comme ça, là. Mais retournez-vous vers votre voisin de droite et votre voisin de gauche, là, puis vous allez voir qu'il n'y a pas juste vous, là. Et je leur disais aussi, les adolescents, là, faut pas penser qu'un coup qu'on a défini ce qu'on attend d'eux pour la semaine, que ça va être fini, c'est à recommencer la semaine d'après. Et je leur disais aussi, si vous voulez savoir ce qu'ils font, faites du taxi, parce que c'est la seule façon dont vous allez connaître leurs amis, savoir où ils vont, savoir, oui, dans quel état ils reviennent. Et puis, ils vous parleront pas si vous leur dites qu'est-ce que tu as fait à l'école. Ils vous le diront pas, mais s'ils en parlent entre eux, ça va être bien.
Est-ce que vous leur disiez aussi que c'était important de préserver ses heures de sommeil?
Non, je ne disais pas ça.
Est-ce que vous...
Parce que moi-même, non, j'étais pas très forte.
Alors, j'imagine que quand vous étiez jeune, vous trichiez un petit peu et vous pouviez regarder avec papa-maman les couches tard?
Oui, je regardais les couches tard. En fait, oui, j'avais toujours une place où mes parents ne me voyaient pas nécessairement, puis je pouvais voir la télé, oui.
Parce que c'est une émission qui s'adressait essentiellement aux adultes.
Oui, oui. Mais il y avait des reportages. Il y avait, oui, c'était un peu coquin, mais bon.
Voilà. Ouais. Et c'était très tard, parce que souvent, c'était après le match de hockey, si vous vous souvenez.
Oui, oui, oui.
Animé par Roger Beaulieu et Jacques Normand.
Et oui.
On va se rappeler un beau souvenir grâce à vous. Le thème des couches tard, composition, peut-être le saviez-vous pas, vous qui êtes à l'écoute, composition de Jean-Pierre Ferland, les couches tard.
Regardez-les, les couche-tard. Ils ont l'œil lourd et gris. Ils traînent le jour, les couche-tard. Et pousse sur la nuit. Ils vivent au soleil de minuit. Et on les arrose au whisky. Ces fleurs de macadam. Ces fleurs de macadam. Ils aiment la vie, les couche-tard. Loin du jour, loin du lit. Et croient que deux jours, les couche-tard ne valent pas une nuit. Laissez ronfler les couche-tard. Les chats sont réveillés. Laissez rêver les couche-tard. Le laitier va passer.
Un moment marquant de la télévision.
Un moment marquant, un moment que qui m'a touché beaucoup, puis j'y repense avec tristesse, c'était le Téléthon, dans lequel on voyait André Mathieu. À l'époque, la télévision commençait là, à faire des reportages en direct. Le souvenir que j'ai de ça, d'abord, la télévision est en noir et blanc, c'est encore plus triste, et lui... L'image que je retiens, c'est que c'est probablement à la fin du Téléthon. Il est en chemise blanche, puis il est très débraillé. Il a les cheveux gras, il a l'air dans un état de fatigue extrême. Il est presque penché sur son piano. Je sais pas depuis combien d'heures il a pas dormi. Puis moi, je l'écoute jouer. Évidemment, là, c'est pas la qualité de la musique, mais j'ai déjà beaucoup d'admiration pour cet artiste-là parce que mes parents en ont parlé. Puis cette image-là d'André Mathieu, quasiment en déchéance, ça m'a fait tellement mal que plus tard, actuellement, c'est Alain Lefebvre qui est son héros, là. Mais avant ça, il y avait eu, aux Olympiques de 76, il y avait Vic Vogel qui avait fait quelque chose avec la musique d'André Mathieu. Et à ce moment-là, c'était plusieurs années après cet homme-là que j'avais vu à la télé, là, qui était si brisé. Mais j'avais été bien contente qu'on puisse lui rendre hommage. Puis, dans les dernières années, bon, évidemment, j'ai acheté le livre qui a été fait sur lui, j'ai vu le film, mais c'est surtout ce qu'Alain Lefebvre fait qui me
touche.
Alors,
on pourra écouter cette pièce un peu plus tard dans l'émission. Puisque vous évoquez André Mathieu, vous faites référence aussi à la musique classique. Il y a un disque que vous avez beaucoup puisé aussi.
Oui, ben moi, et plusieurs adolescents de mon époque, on avait été touchés par Van Cliburn. D'abord, la pochette du disque le révélait. Il était à son piano. C'est un jeune homme, cheveux bouclés, en tout cas, de toute beauté. Alors, pour les adolescentes, c'était déjà la pochette du disque, c'était bien. Et ça nous le montrait parce qu'on voyait des extraits à la télévision aussi, en train d'interpréter le premier concerto de Tchaïkovski. Il avait gagné là, un prix international avec ça.
Alors, voici le troisième mouvement marqué Allegro. Allegro con fuoco de ce concerto numéro 1 opus 23 de Tchaïkovski, et on parlera justement de ce concours au retour de cette pièce.
Thank you.
On vient d'entendre le pianiste américain Harvey Levin Cliburn, plus connu sous le nom de Van Cliburn, qui est décédé à 79 ans en 2013. Il est devenu célèbre, comme vous le disiez, Madame Payette, pour avoir remporté en 1958 à Moscou, en pleine guerre froide, la première édition du concours international Tchaïkovski. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce premier concours international Tchaïkovski fut créé pour démontrer la supériorité culturelle de l'URSS. Imaginez, à la finale du concours, la lumineuse virtuosité de ce pianiste américain dans ce concerto numéro 1 de Tchaïkovski et aussi dans le numéro 3 de Rachmaninoff lui vaut une ovation debout qui dure 8 minutes. Les juges soviétiques auraient été alors contraints de demander, paraît-il, à Nikita Khrouchtchev la permission de donner le premier prix à l'Américain. Alors, Khrouchtchev aurait simplement posé comme question « Est-il le meilleur? » Et les juges de répondre « Absolument. » Alors, donnez-lui le prix.
Ah, ben, je savais pas cette histoire.
Alors, c'est une histoire que je trouve amusante, d'autant que ce concours a été créé pour souligner la supériorité du régime soviétique. Et c'est un Américain qui a remporté ce prix. Il n'a pas connu une carrière fulgurante, par ailleurs, par la suite.
Je n'ai pas de souvenir, là, de l'avoir suivi, moi, par la suite. Il a peut-être fait quelque chose, mais je ne l'ai pas suivi.
Sauf que lorsqu'il a remporté le prix, le New York Times avait titré « L'Amérique met sous le tapis l'Union soviétique » ou quelque chose genre. Enfin, c'était pour les Américains,
ils
évidemment.
Pavoisaient, là.
Absolument. Ils ont donc récupéré au plan politique le fait qu'il ait remporté ce prix. Vous en avez des souvenirs. Vous avez parlé de l'époque du petit café à un moment donné. Il y avait un chanteur qui en a inspiré plusieurs et qui en inspire encore beaucoup. C'est Charles Trenet. Charles Trenet qui a écrit des chansons extraordinaire, toute légère, mais toute belle à fredonner. On en a choisi une que vous aimerez. Il y en a tellement. Vous nous aviez proposé « Il y a de la joie ». On a choisi « L'âme des poètes » parce que, d'une certaine façon, par le travail que vous avez fait comme enseignante, vous avez été une espèce de poète,
Mon
de
Dieu,
poétesse.
Quel beau compliment. D'autant plus qu'il y a 2 ans, j'étais à Narbonne, et puis c'est sa ville natale. Et l'âme des poètes, ils ont les paroles qui sont inscrites sur plusieurs de leurs édifices. Alors, ça me fait bien plaisir d'entendre ça.
Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. C'est leur chanson qui rend gai, qui rend triste, filles et garçons, bourgeois artiste ou vagabond.
Alors, quand j'étais à Narbonne et puis qu'on voyait ses poèmes là, sur les murs, il y avait... je suis allée visiter sa maison natale. Alors, il l'a léguée à la ville de Narbonne, qui a eu le génie de la conserver dans son état original. Alors, elle est bien entretenue, puis ils ont installé... il demeurait avec sa mère là-dedans, lui. Mm-hmm. Puis ils ont installé des postes de télévision dans plusieurs pièces. Alors, la pièce, elle est dans son état original, mais il diffuse sur ces écrans-là des détails sur la vie, des images inédite et là où la chanson aurait été composée, pour quelle raison. Écoutez, c'est une visite fantastique. Ceux qui vont à Narbonne, il ne faut pas manquer ça.
Charles Trenet, c'est un éternel.
Oui, absolument.
La musique pianistique aussi peut toujours nous fasciner. Elle vous fascine particulièrement encore. On peut mentionner, je ne mentionnerai pas votre âge, mais on sait quand même que vous avez vécu pas mal d'années.
Oui. Mais là, j'ai décidé de célébrer ma 75e année avec un défi de devenir pianiste. Alors, j'ai fait de la musique pendant 5-6 ans quand j'étais adolescente, mais j'ai abandonné la pratique et puis j'ai toujours regretté de ne pas pouvoir accompagner des gens qui chantent autour de moi ou de tout simplement accompagner des mélodies que je veux entendre moi-même. Et quand Grégory a lancé son projet fou là, de devenir pianiste en 8 mois, j'ai décidé d'embarquer là-dedans. Et puis là, je le suis 10 minutes par jour. Je suis absolument fascinée.
Et ça va bien?
Et ça va bien. Et je vais participer à son concert le 13 mai avec 2020 autres personnes.
Donc, la prochaine fois, vous allez pouvoir venir nous jouer le premier mouvement du concerto Tchaïkovski.
C'est mon rêve.
On va revenir à André Mathieu, dont vous en avez beaucoup parlé précédemment. Vous avez évoqué qu'il a été un peu l'inspiration pour les Jeux olympiques de 76 auprès de Vic Vogel. Même si Mathieu était déjà disparu, on sait qu'Alain Lefebvre a rappelé sa mémoire, a remis en marche la beauté de cette musique. Mais Vic Vogel avait fait un effort aussi.
Oh, c'est magnifique ce qu'il avait fait.
Incroyable. Oui. Alors, on va écouter la marche des athlètes qui a vraiment été utilisée en 1965. C'est la marche numéro 2 lors de l'ouverture des Jeux olympiques, la 21e Olympiade de Montréal en 1976.